Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour sur Lecture par tous, sur Divergence FM 93.9. Alors aujourd'hui dans le studio, des lectrices et un lecteur. Des lectrices qui ne sont pas forcément que lectrices, mais qui sont là aujourd'hui en tant que lectrices. Bonjour Hélène.
Bonjour Marc.
Voilà, donc Hélène Honora, à ma droite. Et puis à ma gauche, Françoise Jarousse. Bonjour Françoise.
Bonjour Marc.
Voilà, et donc nous allons parler lecture, tout simplement, faire un petit bazar littéraire de printemps. Alors, bah Françoise, tu vas ouvrir le bal, si je puis dire, avec un ouvrage qui est publié chez un éditeur. Je reconnais immédiatement l'éditeur au type de couverture, c'est la Contre-Allée, un éditeur dont on ne cessera de recommander la lecture de ce qu'il publie, parce que c'est vraiment un grand travail de grande qualité. Alors, un joli ouvrage bleu, de quoi s'agit-il?
Eh bien, il s'agit de Piscine.
S'agit de Piscine, ah ben, la couleur est de circonstance alors.
Absolument, oui, puisque la couverture, en fait, ce sont les carreaux déformés du fond de la piscine.
D'accord.
Oui, et oui. Ce petit livre s'appelle L'odeur de chlore, et c'est un premier ouvrage, et l'auteur est une jeune femme qui s'appelle Irma Pelletan, et qui raconte son expérience de nageuse. Et le fait que dans sa famille, on parlait natation, on se réveillait natation, on mangeait natation, on respirait chlore. Hein, la famille, le père était entraîneur de natation, faisait nager ses filles. Et donc c'est de son expérience de nageuse qu'elle nous parle. Et c'est quelque chose qui, à moi, me parle particulièrement parce que j'ai fait partie de ces familles de nageurs qui respiraient, vivaient, mangeaient, natation. Alors, ce sont des impressions. Ces impressions de nageuses sont ressenties, sont vécues, et c'est extrêmement juste. C'est un livre impressionniste, effectivement. Mais pas que ça, parce que son expérience de nageuse, elle l'a vécue dans un endroit particulier qui est Firminy. Et la piscine où elle nageait est une piscine qui a été construite dans les années 50 par Le Corbusier. Et qui était dans son programme Modulor, et où il construisait des bâtiments qu'il voulait idéaux, et idéaux pour un homme idéal. Et cet homme idéal faisait 1m83. Sauf que la petite fille qui nageait, elle ne faisait pas 1m83. Et donc elle raconte comment les sièges, par exemple, n'étaient pas à sa hauteur à elle. Enfin, il y a toute cette expérience-là également qui est racontée. Elle raconte aussi le fait que, à côté de la piscine, Le Corbusier a construit une église, mais une église qui n'a jamais été achevée par manque de capitaux. Et donc ce petit livre extrêmement bien écrit, où elle dit: je veux parler du corps, de la mesure du corps, ce corps changeant depuis la plus petite enfance, ce corps qui constamment devient ce corps qui m'échappe, le contraire de la stabilité, le lieu des marées, mon corps qui dit, qui signifie ce que je ne sais pas mettre en mots, ce message sans doute si terrifiant, si déformant, mon corps qui suit de grands rythmes, qui semble pris dans un tout dont je ne sais rien, si proche, étranger. Voilà ce dont elle parle.
D'accord. Et alors tout ça dans l'architecture de Le Corbusier autour. Hein, oui. C'est vrai, quand tu parles de Le Corbusier, on a en tête cet idéaliste de l'architecture. Mm-hmm. Et avec quelques décennies de recul, l'idéal est un petit peu raté, quoi. On a vu des travers des œuvres de Le Corbusier depuis qui sont... On est revenu un peu sur les options qu'il prenait, quoi. Théoriquement, c'est bien, mais dans la pratique...
Oui, effectivement, c'est un petit peu ce que l'on sent dans ce qu'elle raconte. Mmh. Elle parle donc des sièges qui n'étaient pas adaptés aux enfants, des perches qui étaient placées beaucoup trop hautes, d'un couloir qui était à la limite dangereux pour les nageurs parce que le sol était glissant. Enfin, un certain nombre de détails. Ce n'est pas du tout le but du
livre. Oui, ce n'est pas une critique de l'architecture de Le Corbusier.
Mais ce sont des détails qui apparaissent. Mais il y avait cette dynamique à l'époque dans cette ville ouvrière, avec un maire communiste, où il y avait cette dynamique de créer des lieux pour l'ensemble de la population. Hein, ça apparaît aussi en filigrane dans le livre. En fait, au-delà de son expérience personnelle, qui est extrêmement intime, il y a un arrière-fond social qui est assez bien, alors de façon également pointilliste, mais qu'on ressent très bien.
Et pourquoi 1m83 ? Pourquoi est-ce que Le Corbusier bâtissait pour un... C'était pas la taille standard à l'époque.
À l'époque, certainement pas, non.
Non, mais lui avait décidé que l'homme idéal faisait 1m83.
Ah, d'accord. Ouais,
voilà. Pas 82, 83.
Non, 83. Hein ? Alors, pour quelle raison obscure, je
D'accord, il n'avait pas fait de projection, de statistiques.
Non, il faudrait peut-être... étudier ses écrits théoriques pour voir quelles raisons.
Déjà, il faudrait peut-être savoir combien il mesurait lui-même.
Bon. Éventuellement.
Voilà, donc, alors tu peux nous rappeler le titre, L'odeur
de chlore, d'Irma Pelletan, donc voilà. Paru il y a un mois à peu près aux éditions de la Contre-Allée.
Voilà, un livre qui est, on va quand même dire, qui n'est pas juste un livre pour les nageurs ou un livre à emmener à la piscine.
Pas du
non,
tout. Hein, pas
voilà.
du tout.
Ça va quand même au-delà. Parce que quand tu nous l'as dit au début, ça faisait un petit peu livre pour nageurs ou à mettre dans votre sac avant d'aller à la piscine.
Non, parce qu'il y a une qualité littéraire.
Voilà. Un vrai livre, pas juste un plongeon. Voilà. Enfin, il faut se plonger dans le livre et puis on découvrira d'autres choses. Alors, on va plonger et traverser la Manche. Hein, et on va aller rencontrer un auteur, j'allais dire, oui, britannique, mais british, mais alors peut-être jusqu'au bout des ongles. C'est un exemple de la littérature britannique de ces dernières années, David Lodge.
Oui, cependant, Lodge dit qu'il est toujours surpris du succès qu'il a en France. Il a, pendant longtemps, il a même eu davantage de succès pour certains de ses livres en France que chez lui. Nul n'est prophète en son pays. Et il est très francophile, bien qu'il se définisse effectivement comme un auteur anglais-catholique.
Ce qui est déjà une marginalité en Angleterre.
Exactement.
Alors, tu veux nous parler donc d'un livre qui n'est pas tout récent, qui s'appelle...
Qui s'appelle La vie en sourdine.
Voilà.
C'est, en anglais d'ailleurs, le titre est un jeu de mots parce qu'il parle de death sentence. Donc c'est death, la mort et la surdité qui sont presque voisines. La vie en sourdine, c'est l'histoire d'un universitaire, d'un prof jeune retraité. Qui devient sourd depuis déjà pas mal d'années. Et c'est sur un mode tantôt intime, tantôt ironique, tantôt sociologique, le récit de tous les déboires que lui occasionne cette surdité sur le plan social, sur le plan universitaire, parce que il a pratiquement arrêté sa carrière, sur le plan amoureux, il est marié, sur tous les plans, cette surdité rejaillit. Et sur un tel sujet, il arrive quand même à faire de l'humour et de l'autodérision. C'est un excellent conteur, David Lodge. Et c'est l'occasion dans ce livre d'aborder, lui qui se définissait comme un auteur humoristique, c'est l'occasion d'aborder des sujets plus graves, la vieillesse, la mort, les relations entre un père et son fils, entre un homme et son épouse. Alors son père est, lui c'est un jeune retraité, son père doit être octogénaire, et lui est sourd, le père, mais pas dans les mêmes proportions. Alors il y a un dialogue par exemple où il va rendre visite à son père, qui le conseille, et qui lui dit « Suis mes conseils, fiston, vieillis pas, mais je suis déjà vieux, j'appelle pas ça vieux. » Et je suis à la retraite, je touche une pension, j'ai une carte de réduction sur les chemins de fer et un pass sur les bus. Et je suis obligé de me lever au moins une fois toutes les nuits. Et je suis sourd. Un sourire discret a illuminé son visage. Oui, t'es un peu dur de la feuille, c'est vrai. Je l'ai remarqué. Je me demande bien où t'as pris ça. À ton âge, j'entendais parfaitement. Ayant réussi à réaffirmer sa supériorité par rapport à moi, son humeur s'est améliorée. « Qu'est-ce que tu voudrais pour ton thé ? On pourrait prendre ces haricots blancs à la tomate avec un peu de bacon. » Lui est plus sourd que son père et c'est déjà un clivage inversé entre les deux générations.
Voilà, donc un livre qui permet de découvrir un petit peu le monde de la surdité, peut-être aussi.
Oui.
Hein, qui est un monde qu'on connaît assez mal. Alors, nous sommes dans une radio qui essaye de faire quelque chose. Hein, autour de ça, parce qu'il y a d'autres programmes où des personnes sourdes s'expriment sur cette antenne. Oui, parce que c'est un monde qu'on connaît vraiment très mal, entre les surdités acquises, les surdités de naissance, les surdités profondes ou les surdités partielles, c'est des très très grandes différences. Alors voilà, donc pour découvrir un petit peu ce monde, puis plutôt découvrir un humour... So British.
Oui, Lodge dit par exemple, enfin son narrateur qui est Desmond dit le tout c'est de savoir si je serai totalement sourd avant d'être totalement mort ou le contraire.
Voilà, les petits exemples que tu donnes, pour moi c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle dans l'humour britannique l'understatement.
Absolument. Hein,
c'est-à-dire le sous-entendu. On ne dit pas les choses très clairement, on les suggère et on ne s'attarde pas. Surtout pas s'attarder, ce n'est pas la peine. Alors, merci. Donc on rappelle peut-être traducteur et éditeur. J'aime bien qu'on n'oublie pas les traducteurs.
Oui, l'exemplaire que j'ai ici, c'est Rivage et c'est traduit de l'anglais par Maurice et Yvonne Couturier. Et d'ailleurs, Lodge rend un hommage particulier à ses traducteurs, dont certains sont devenus ses amis.
Voilà, c'est important parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a souvent accès à cette littérature. Et c'est, tu l'as dit, aux éditions Rivage, La vie en sourdine de David Lodge. Alors, on retraverse la Manche et on retraverse la table, si je puis dire. On va faire un petit voyage dans le temps, on va aller dans la France profonde, on pourrait dire ça comme ça, avec Franck Bouys, dont tu vas nous parler maintenant.
Oui, oui, on pourrait même dire qu'on va aller dans la France où le temps n'existe pas. Hein, avec le dernier roman de Franck Bouys, je crois que c'est son cinquième,
à peu
quelque
près,
chose
oui,
comme
je
ça,
crois, oui.
Oui. Qui a un très beau titre, qui est paru à l'automne et qui s'appelle « Né d'aucune femme ».
Et un très beau titre et une très belle couverture.
Oui, la couverture est magnifique. Mmh. Hein. Elle utilise la photo d'une photographe qui a beaucoup mis en scène sa vie, alors qui est ou morave ou slovaque, enfin qui est de cette Europe de l'Est. Et la photo, effectivement, elle attire le regard. Hein, et le titre également, et le livre encore plus.
Voilà, on va peut-être, on dit la photo, mais on peut peut-être la décrire brièvement.
Oui.
Hein.
Alors,
donc on a une photo, c'est une photo ancienne, on a un tirage sépia, ça c'est le choix du maquettiste.
Oui, je crois qu'elle est des années 80 à peu près, voilà. la photo. C'est une femme allaitant son enfant, mais une femme qui est sculpturale, hein, qui a à la fois de la tendresse et de la force dans la photographie.
Oui, il y a un côté, j'ai envie de dire, dans cette photo, de très charnel du corps de cette femme et de cet enfant qui est accroché à son sein. Et en même temps, il y a quelque chose du côté de l'allégorie quasiment. C'est... De quelle époque c'est, on ne sait pas vraiment. Il n'y a pas vraiment une époque précise auquel on peut dater l'image. Oui. Et oui, il y a quelque chose un peu de... Je veux dire, c'est né d'aucune femme et c'est la femme, j'ai envie presque de dire, qu'on a en couverture, oui, plus qu'une femme. Quoi.
En effet.
Oui, puis elle est torse nue, oui, c'est-à-dire qu'elle assume totalement cette nudité. Elle ne sort pas un bout de sein pour allaiter son enfant. Non. Elle est torse nue et par contraste, elle a une longue jupe qui masque le bas de son corps. Oui. Une espèce de Madone païenne.
Tout vraiment, à fait, il y a quelque chose des Madones. Hein, et quelque chose de très intime,
oui,
et à la fois exposé sur la couverture, mais sans aucune... comment dire, il y a pas de voyeurisme ou quelque chose d'indiscret, c'est en toute simplicité.
Oui, il y a quelque chose de tellurique dans le ressenti de la photo. Et le bébé est un peu étrange parce que ça n'est pas un nourrisson, hein. Il est assez grand, hein,
oui,
disons. Hein.
Alors, bon, ce n'est pas qu'une couverture.
Ce n'est que la couverture, voilà.
Tu peux nous parler un petit peu du contenu?
Alors, ce livre, en fait, c'est un conte. Hein. Enfin, c'est d'abord un conte. Et je dirais que, enfin, comme souvent le sont les contes, c'est un conte cruel. C'est un conte où il y a une demeure qui est une sorte de château où on enferme. Il y a un ogre. Il y a une reine-mère maléfique qui est peut-être une sorcière. Il y a une chambre interdite. Il y a une jeune fille innocente qu'on enferme dans ce château. Il y a un jeune homme qui voudrait sauver cette jeune fille. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui appartiennent au monde du conte. Et au-delà de cela, il y a une histoire humaine. Une histoire humaine qui est racontée par plusieurs voix. Et c'est une sorte de roman polyphonique, en même temps que c'est un conte. Et l'histoire que raconte ce conte, dans une France qui est indéterminée, où effectivement on a l'impression que le temps est immobile. L'histoire qui nous est racontée, c'est l'histoire de Rose, de cette jeune fille qui est vendue par son père à un maître de forge. Et elle est vendue pour venir travailler donc dans cette immense demeure où vivent le maître de forge, sa mère et un palefrenier. Un jeune homme ou un homme très jeune qui s'appelle Edmond. Et alors, c'est difficile d'en dire plus parce que il faut pas déflorer l'histoire, mais petit à petit, on découvre, à travers le journal que Rose a laissé, son histoire. Mais en même temps, cette histoire, elle nous est racontée par Edmond. Elle nous est racontée par un prêtre qui a en sa possession le journal de Rose. Et à partir de toutes ces voix, on reconstitue cette histoire. Alors, ce conte cruel, en fait, qui nous ramène dans une France qu'on pense du début du 19e siècle, mais qui nous décrit aussi un monde immobile et un monde de souffrance réelle, hein, parce que ce père qui vend sa fille, en fait, il le fait parce qu'il ne peut pas faire autrement. Hein. Et on sent la souffrance du père, on voit également la mère qui se débat, enfin, tout ce monde paysan opposé au monde des maîtres, hein, représenté par cette demeure, le maître de forge. Et l'opposition entre ces deux mondes, elle est extrêmement forte. Et tout cela est servi par une écriture qui est absolument magnifique. Il y a quelque chose d'envoûtant dans l'écriture de Franck Bouys, qui est à la fois maîtrisée et d'une poésie. Enfin, c'est extrêmement poétique. Hein. C'est vraiment un grand roman.
Voilà, parce que j'allais te suggérer, je pense qu'il faut dire quelque chose du style de l'écriture.
Je vais simplement lire une phrase.
Voilà, peut-être hein.
Une phrase qui est la fin du prologue. Hein, du prologue qui ouvre le livre. Il connaît cet endroit autrement qu'en souvenir. Quelque chose parle dans sa chair, une langue qu'il ne comprend pas encore. Comment j'aurais pu imaginer qui il était ? Il est grand temps que les ombres passent aux aveux. Et c'est l'ouverture vraiment qui nous amène à l'histoire de Rose.
Voilà, puis quand on a présenté un petit peu son travail au Grain des Mots, quand il témoignait de son, j'ai envie de dire, de son artisanat d'écrivain, hein, il disait comment, d'un certain côté, il écrivait presque sous la dictée de ses personnages,
oui.
Et puis comment il faisait jouer les mots de façon particulière, et comment si les images qui lui venaient sous la plume étaient incongrues, les usages des mots incongrus, si ça s'impose à moi comme ça, eh bien, gardons-le comme ça. Mmh. Hein. Voilà, donc Franck Bouys, je crois que c'est vraiment une voie découvrir dans la littérature française aujourd'hui. Il ne faut pas le cantonner au roman noir ou
au
policier
pas.
Ou quelque chose, même si il sera au prochain Festival international du roman noir à Frontignan à la fin juin. Voilà, ça dépasse complètement la question du genre. Alors, pour mémoire, hein, voilà, son premier roman, c'était Grossir le ciel en 2014. Et puis, on suivit Plateau en 2016, Glaise en 2017, dont on a beaucoup parlé. Hein, ce qui a fait,
je crois qu'on a commencé effectivement à parler de lui avec Glaise.
Avec Glaise, beaucoup. Et puis donc, Né d'aucune femme. Et puis, un plus petit qui est moins connu, qui s'appelle Vagabond. Et la plupart sont publiés par un éditeur aussi à suivre attentivement, la Manufacture de Livres. Voilà, Franck Bouys, bah vous aurez l'occasion donc de le rencontrer si vous ne l'avez pas vu au prochain Festival international du roman noir. Et nous ne désespérons pas de le recevoir dans notre émission. Je suis en train d'essayer de réussir à organiser ça. Alors. On a des livres de partout, c'est le bazar sur cette table. Allez, est-ce qu'il faut bazarder tous les livres pour faire de la place ? Faut jeter tout ça ?
Certainement pas.
Alors, ton avis là-dessus, Hélène ?
Tu veux que je te dise quoi ne pas lire pour ne pas bazarder ses livres ?
Ah, voilà, quelle recommandation ne pas suivre lorsque votre maison déborde de livres ? J'en sais quelque chose.
Alors, en voilà un qui s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires. Ce doit être davantage maintenant, parce que ça n'est pas la dernière édition. Je l'ai emprunté à la bibliothèque pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ça s'appelle « La magie du rangement ». Ça a été un succès planétaire. C'est traduit dans toutes les langues. C'est de Marie Kondo. Alors, Marie Kondo, je vais vous dire, si vous tenez, entre autres, à votre bibliothèque, ne lisez pas Marie Kondo, mais même pour le reste, moi, je suis absolument réfractaire. Donc, les vêtements doivent se plier verticalement. Chaque vêtement a son point central idéal, à savoir un état plié optimal qui diffère en fonction de sa matière et de sa taille. À vous, par conséquent, de tâtonner jusqu'à trouver la bonne méthode. Moi, je range mes livres verticalement, mais pas mes vêtements. Bon, les papiers, la règle est simple, jetez tout, à tel point que l'éditeur en France a fait une note en rappelant qu'on ne pouvait pas jeter ses bulletins de salaire et ses carnets de chèques inconsidérément. Et alors, le pompon, évidemment, ce sont les livres. Donc, Marie Kondo est arrivée à une trentaine pour sa part, en tout et pour tout. Et elle dit, cette phrase que je trouve extraordinaire, « Il n'est pas rare que les gens achètent un livre, puis s'en procurent un deuxième, peu de temps après, alors qu'ils n'ont pas encore lu le premier. » Donc, le livre, c'est comme la baguette de pain, quoi. Si vous n'avez pas terminé la précédente, il est hors de question d'en acheter une autre. Et alors, Son point de vue, c'est que de toute façon, il faut tout jeter. Et si quelque chose vous manque, par exemple pour les livres, jetez ce livre si vous ne l'avez pas fini. Ce n'est qu'en vous débarrassant de cet ouvrage que vous saurez à quel point ce sujet vous passionne. Et s'il vous manque terriblement au point de vouloir en acheter un autre exemplaire, rendez-vous dans une librairie.
Voilà. Alors, il y a une espèce de... Je trouve... on en sourit, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est assez dramatique. Parce que c'est un espèce d'éloge absolu de la société de consommation. Les déchets, produisez des déchets, c'est pas grave. Racheter, ça fait tourner l'économie.
Exactement.
Voilà, faut un rapport utilitariste complet au livre, à la lecture. Y compris quand tu donnais l'exemple du pain, j'ai envie de dire, mais même... Je suis désolé, moi, je fais pas ça, parce que j'achète pas des baguettes qui sèchent dans les 3 heures. Non, j'achète des pains qui se gardent, et j'aime bien en avoir un aux céréales, au seigle, avoir des pains différents. Donc, chez moi, il y a plusieurs pains, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs pains. Et puis, genre, ça me faisait penser, on l'évoquait tout à l'heure en préparant cette émission autour d'un café, comme quoi... Ah, c'est du temps perdu de prendre un café. Non, non. Et puis, tu nous parlais de ça, et puis ça me refaisait penser à Pierre Desproges, qui, dans un de ses sketchs, raconte qu'il est un passionné de l'ordre. Hein. Donc, chez lui, il faut tout ranger. Il fait son lit au carré, et ainsi de suite. Il range tout, y compris la belle-mère qui est pliée dans le placard. Et cette obsession de l'ordre fait qu'il adore sa pendule à affichage numérique, hein, et que rien n'est plus extraordinaire pour lui, et il en a presque un orgasme lorsqu'elle affiche 11h11. Eh oui, voilà. Hein, alors non, les livres, on ne les lit pas 11h11, on peut les lire à toutes les heures du jour et de la nuit, et on en a partout, et on les perd, et on les retrouve, et c'est très bien comme ça. Il me reste 2 minutes, allez. Un petit écho rapide. Tu nous parlais de contes, Françoise, avec Franck Bouys et Né d'aucune femme. Un autre conte très réussi, je trouve, qui est paru tout récemment au Seuil. C'est Jean-Claude Grimbert, hein, qu'on connaît surtout comme auteur de théâtre, hein, qui a écrit une trentaine de pièces tout à fait intéressantes, et même plaisante, enfin voilà, de qualité, on va dire, tout simplement. Et là, qui a publié un conte qui s'appelle « La plus précieuse des marchandises ». Alors, « La plus précieuse des marchandises », c'est vraiment un conte qu'on peut... J'ai envie de dire, c'est un petit livre. Bon, ça se lit, allez, en 2 heures, vous en êtes venu au bout. Mais j'ai envie de dire, il faudrait le lire à haute voix, à votre compagnon, ou à votre compagne, ou à vos enfants, parce que c'est vraiment... c'est un conte, ça se raconte, quoi. Et c'est quoi, ce conte? C'était, vous dire simplement, la quatrième de couverture qui reprend les premières lignes du livre et qui dit « Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. » Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit Pousset. Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leur enfant faute de pouvoir les nourrir? Allons. Dans ce grand bois, donc, régnait grande faim et grand froid, surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui, 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 la guerre mondiale. Et dans ce bois qui est perdu quelque part dans une forêt de Pologne, il y a une voie de chemin de fer qui a été construite. Et il y a des wagons de marchandises qui passent sur cette voie de chemin de fer. Il s'agit bien sûr des trains qui acheminent leurs victimes vers les camps de concentration. Et puis, ils passent plein, ils repassent dans l'autre sens vide. Et puis un jour, il y a un bébé qui va être jeté, offert, on pourrait dire, à pauvre bûcheronne, qui va tomber du train. Et voilà, c'est cela, la plus précieuse des marchandises, ça va être ce bébé. Je n'en dis pas plus, je vous encourage à lire La plus précieuse des marchandises, un conte, c'est le sous-titre, de Jean-Claude Grimbert, et c'est paru au Seuil il y a quelques semaines ou quelques mois. Voilà, C'était notre bazar de printemps. Merci beaucoup Hélène Honora de ce partage. Et nous ne rangerons pas nos livres, c'est promis. Merci Françoise Jarousse.
Merci à toi.
De nous avoir fait nager dans la littérature. Merci Bruno pour la technique. Et nous vous donnerons rendez-vous pour une prochaine émission.
Merci Bruno.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.